Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Comme vous l'avez compris, les horaires de la Libre Antenne vont être modifiés comme ça jusqu'au 11 juillet pour cause de football et d'élections. Alors notez bien, pour ce week-end, ce soir donc c'est 23h30, demain soir 23h30 également et dimanche ce sera l'inverse. La Libre Antenne commencera une demi-heure plus tôt que d'habitude, soit à 22h30. Je vous tiendrai au courant au début de chaque week-end sur ma page Facebook Sabine Marin Officielle pour être sûre de ne pas vous perdre en route, ce serait dommage. On a moins de temps ce soir, on va donc aller à l'essentiel. Notre numéro de téléphone, si vous voulez prendre la parole, 39 21, Fanny et Théo sont au standard, ils sont prêts à vous accueillir. Et si, comme vous le faites souvent, vous avez envie de participer par SMS, que ce soit pour donner votre avis, apporter une idée, un soutien, vous tapez le 7 39 21, suivi du mot nuit et de votre message. Enfin, vous le savez, vous pouvez aussi entrer en contact avec nous par mail à l'adresse suivante, libreantenne, en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Dernière info et non des moindres, c'est Patrick qui réalise notre émission ce soir.
22h30, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Sonia. Bonsoir à vous Sonia.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ?
En fin de compte, ça faisait 26 ans que je reniais le fait que j'étais bipolaire. Et là, depuis un mois, j'ai accepté mon handicap.
Ah, vous êtes, pas facile. Vous étiez dans un déni complet, alors ?
Déni complet. J'ai toujours refusé tous les traitements.
Alors, racontez-moi, s'il vous plaît. Vous aviez quel âge quand il a commencé à y avoir des symptômes qui ont posé des questions, des doutes ?
Disons que c'est suite à un enlèvement dans le métro, quand j'avais 19 ans.
C'est vous qui avez été enlevé ?
Oui, c'est moi qui étais enlevée, oui.
Oui. Comment ça s'est passé, cette histoire ?
Cette histoire, c'est qu'il y avait un train qui devait passer en gare Montparnasse. Il n'a pas pu venir parce qu'il y avait des inondations à Poitiers. Du coup, moi, je me suis retrouvée à 19 ans en gare. Il faisait nuit et je ne connaissais rien parce que je ne connaissais pas les métros. J'étais naïve complètement. Et j'ai demandé mon chemin. Et puis là, du coup, on m'a emportée, entre guillemets, on m'a droguée. Et on m'a emmené dans une belle maison bourgeoise, de ce que je me souviens. Mmh. Et après, il y a eu un gros trou noir. Mmh. Parce qu'en fin de compte, tout ce que je vous dis, il m'a fallu quasiment 15 ans pour le retrouver.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un tel choc émotionnel que le cerveau a bloqué, quoi.
C'est exactement ça. Mon cerveau, pour se préserver, ouais. Il s'est mis en mode off.
Ouais, c'est l'écran noir qui tombe, quoi.
Voilà, c'est ça. On m'a retrouvé inanimé dans un caniveau. Dans le 12e arrondissement.
Combien de temps après ?
24 heures. En fin de compte, on dit souvent que dans les enlèvements, c'est les 48 premières heures qui sont les où on peut encore retrouver. Un coup passé 72 heures, c'est fini, quoi.
C'est ce qu'on dit, oui. Ouais.
D'habitude, quand il y a un enlèvement, forcément, moi, ça m'affecte. Parce que je me dis toujours pourvu qu'on la retrouve. Ou qu'on la retrouve. Mais moi, en fin de compte, c'est ça qui a fait que suite à, du coup, à ce. On m'a mis en léthargie pour que je récupère. Et à 20 ans, on a dit à mes parents que j'étais bipolaire. Ils ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire.
Vous êtes certaine que ça vient de là ? Parce que peut-être c'était quelque chose que vous aviez avant qui s'est révélé à cause du choc.
On n'est pas forcément bipolaire à la naissance.
Non, ça c'est sûr.
C'est souvent des gros chocs émotionnels qui font qu'on met une étiquette un peu sur quelqu'un. Pour expliquer les choses.
Mais qu'est-ce qu'il y avait dans votre comportement qui a pu faire dire ça au médecin, par exemple ?
Déjà, j'ai été amnésique.
Mais ça, c'est pas la bipolarité, c'est le choc, l'agression.
C'est après, parce qu'en fin de compte, j'ai fait des voyages pathologiques. À chaque fois qu'arrivait le 25 janvier, la date où on m'avait enlevé, je partais comme un robot sur Paris, revivre ce que j'avais vécu.
C'est-à-dire concrètement, vous faisiez quoi ?
J'allais à Paris, je prenais le train, et là, j'étais plus du tout moi-même. Il pouvait se passer n'importe quoi, c'est comme si j'existais plus. Ils appellent ça des voyages pathologiques, en fin de compte, qu'on revit le problème qu'on a eu. On veut chercher, moi, c'était ça, je voulais chercher à retrouver ma personnalité, parce que du coup, avec tout ça, j'ai perdu. C'était l'année où je devais être championne de France de cross. Donc, j'étais sportive quand même d'un bon niveau, et quand il arrive ça.
Vous avez tout perdu, quoi.
J'ai tout perdu. J'ai pas pu cantiner ma faculté d'histoire-géo. J'ai pas pu. Il a fallu que je me reconstruise année par année avec des flashs. Chaque fois que j'avais des flashs, j'écrivais. C'est comme ça que j'ai réussi à savoir vraiment ce qui s'était passé en gros. Quoi.
C'est ce que j'allais vous demander, combien de temps ça a pris et comment c'est arrivé vraiment un jour de manière plus claire dans votre esprit ?
Ben, disons que, ben, à force de lire aussi tous les bouquins qui correspondent à ça, je me retrouvais forcément dans les lectures, comme par exemple, il y a un livre qui est très bien qui s'appelle « Vivre avec des hauts et des bas ». C'est un psychiatre avec son patient qui disent ce que c'est comment on peut dire que quelqu'un est bipolaire ou pas bipolaire.
D'accord.
Et c'est grâce à toutes mes lectures que j'ai dit, bon, ben, c'est bien, à un moment donné, il faut peut-être avancer, quoi. 26 ans après, donc moi j'ai 46 ans, j'ai toujours refusé tous les traitements qu'on m'a donnés. Et un jour, j'ai dit, moi, je veux bien me soigner, mais je veux ce traitement-là. Parce que j'avais vu certains, c'est à base de lithium, ça s'appelle.
Oui, bien sûr. Oui.
Et il y a une bonne... Enfin, ça dépend des personnes, mais moi, apparemment, ça marche.
Mais alors, pendant toutes ces années, vous n'avez pas pris de traitement, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez des crises qui pouvaient aller jusqu'où?
On me retrouvait encore inanimée dans Paris. C'était trop bizarre. Des fois, on me retrouvait dans un TGV, d'aller à Bordeaux. Tout se passait au niveau de la gare Montparnasse.
Il y avait vraiment un bug. Ouais.
Ah oui, il y a vraiment un bug. Et moi, quand ça m'arrivait, j'étais plus moi-même. Je ne savais même pas ce que je faisais. Quoi.
Et après, vous avez des souvenirs de ces épisodes-là?
Oui, j'en ai, mais pas tout. Parce qu'à chaque fois, on perd des choses qu'on a faites. Et heureusement, peut-être des fois, parce que franchement, quand on me raconte ce que j'ai fait, des fois, ça m'a dit, ah bon, j'ai fait ça. Mmh. Et puis, il y a eu une ultime crise, il y a à peu près 2 mois de ça. Et j'ai dit, soit tu continues comme avant, tu vas encore avoir des crises, soit tu acceptes de te soigner, de voir régulièrement le psychiatre. Là, je suis suivie par une infirmière qui me prépare mes médicaments aussi. Il y a une part un peu d'humiliation dans ça, parce que les médicaments, je sais les mettre dans les boîtes, c'est pas un problème. Mais on est aujourd'hui rendu à un point qu'il faut surveiller, que je prenne bien mes médicaments, parce que comme j'étais tellement d'années sans les prendre...
C'est important ce que vous me dites là, justement, Sonia. C'est parce que vous sentiez humiliée que vous n'avez pas accepté cette maladie avant, et le traitement?
Aussi, ouais. Diminuer.
C'était reconnaître d'être malade, en fait, qui était difficile.
Reconnaître d'être malade. Mmh. Et c'est vrai que quelqu'un qui se casse un bras, qui a des trucs physiques, ça va se voir, mais moi, ce n'est pas physique.
Ouais.
Personne ne peut deviner ce qui se passe dans ma tête.
Oui, bien sûr.
Donc, ce que je voulais dire ce soir, c'est que, d'accord, il y en a, ils disent, ouais, c'est des étiquettes, il faut mettre des étiquettes sur les gens, pourquoi pas, je ne sais pas. Enfin, moi, dans toutes mes lectures, j'ai bien compris que voilà, c'est pas juste une petite baisse d'humeur 5 minutes. Non, c'est pas ça.
Non, puisque c'est surtout dommage, c'est qu'effectivement, il y a des traitements qui peuvent fonctionner. Donc, ça serait dommage de vous en priver.
Oui. Oui, après, bon, malheureusement, dans tous ces traitements-là, ce qui fait que je ne les prenais pas, c'est parce que je prenais beaucoup de poids à chaque fois.
Ah, les effets secondaires.
Les effets secondaires, mais bon... après, si ça évite qu'on retrouve, je ne sais pas trop où...
Entre deux mots, il faut choisir le moindre, hein.
Oui, voilà. Mais puis bon, ben c'est vrai que là, je remplis justement un dossier pour me faire reconnaître que j'ai cette maladie-là, qui est handicapante. Mm-hmm. Parce que malheureusement, on fait des métiers où, ben, pour moi, c'est de plus en plus compliqué d'aller au travail.
Vous faites quoi comme métier?
Disons que si j'ai refusé aussi de prendre mes médicaments, c'est parce que je faisais un métier où normalement on ne doit pas prendre le médicament. J'étais chauffeur de car pendant 20 ans.
Ah oui, d'accord, je comprends mieux, oui.
Donc si toutefois il m'était arrivé un accident, hein, qu'est-ce qui serait passé, analyse de sang et compagnie, et là on aurait vu que j'avais des médicaments dans le sang. Mais quelque part, c'est ce qui me maintenait peut-être. Parce que je faisais super attention à tout. C'est un métier qui, voilà, on n'est pas seul. Hein.
Mais oui.
Donc moi, il est hors de question qu'il m'arrive quelque chose. Donc pendant 20 ans, j'ai eu aucun accident. Et puis un jour, je me suis dit, il n'y a pas de fatalité, on ne sait jamais. J'arrête ce métier-là.
Il n'y avait pas un moyen de vous mettre dans les bureaux, par exemple, ou dans une autre,
non,
un autre poste?
Non, puis j'aurais pas pu, moi, dans les bureaux. Enfin, j'ai fait pourtant un bac pro, un secrétariat bureautique informatique, mais moi, il faut que ça bouge, il faut que je vois du monde, il faut que... Voilà. Comme j'ai toujours... Avant ça, j'étais hyperactive. Et ça aussi, par rapport à l'hyperactivité, souvent les hyperactifs, ils ont tendance, quand il y a des gros chocs, justement, à tendre vers la bipolarité aussi.
Ah oui.
Donc, c'est des faits qui ont été reconnus.
Et est-ce que vous avez réussi avec le traitement à reprendre le sport? Parce que c'est important quand on a été sportif comme ça, non?
Enfin, disons que je n'ai pas des horaires fixes. Alors, pour faire partie d'une association ou quoi, c'est compliqué. J'ai essayé à une époque hein, de reprendre, j'avais fait du foot, mais à 38 ans, j'ai repris une licence de foot. J'en ai jamais pris, c'était un rêve de gosse.
C'est mignon.
Je m'étais dit, tiens, je vais faire du foot. Alors, à 38 ans, c'est pas forcément l'âge où on prend la première licence de foot.
C'est pas évident, mais je trouve ça joli de vouloir réaliser son rêve d'enfant.
Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Un jour, j'ai dit, j'aurai une moto, j'ai eu une moto. Puis un autre jour, j'ai dit, oh, bah, j'aurai une autre moto. Alors, j'ai racheté une autre moto. Mais c'est comme des caprices d'enfant, quoi. J'ai dit, tiens, bah, j'ai fait mon caprice, puis je passe à un autre.
Si ça vous fait du bien, en tout cas, c'est bon à prendre.
Ah oui, bah, ça me fait du bien. La moto, c'est juste comme ça pour se balader, faire des petites balades tranquillou. J'aime pas, je suis pas fan de vitesse. Hein.
Et dites-moi, Sonia, avec vos parents, comment ça s'est passé, toute l'évolution entre la découverte du diagnostic et aujourd'hui? Comment ça a été vécu en famille?
Pas facile, hein. Ils ont vécu des années très compliquées avec moi. Toutes les hospitalisations, plus mon père était atteint de la maladie de Parkinson. Il nous a quittés il y a 2 ans. Alors pour lui, c'était très compliqué, il était hyper émotif. Et quand il m'arrivait des choses comme ça, en plus de sa maladie, ça n'allait pas bien pour lui.
Ça faisait beaucoup à gérer, oui.
Oh, bah, oui, et puis ma maman qui essayait d'aller partout. Hein. Il y a une fois, mon père était hospitalisé à cause de sa maladie, et moi j'étais hospitalisée aussi, et ma mère jonglait entre Poitiers, Thouars, à aller voir tout le monde dans les hôpitaux.
Et là, comment elle va, votre maman?
Ça va, ouais. Ça va, on monte la pente tout doucement. Mais quand on est aidante, parce qu'elle a été aidante, parce que mon papa, il a eu la maladie de Parkinson à 59 ans, il est mort à 74. Les 5 dernières années, c'était horrible. C'était le jour, c'était la nuit, il avait besoin tout le temps d'assistance. Et c'était ma mère qui faisait, il n'y avait pas d'infirmière ou quoi. Ce que j'aurais souhaité, parce qu'on dit souvent que les aidants, des fois, ils partent avant ceux qui ont la maladie.
Mais bon, elle a pas voulu déléguer un peu?
Non, c'est un peu comme moi. Je n'aime pas trop les infirmières ou tout ça. En plus, j'ai ma sœur qui est infirmière. Mais voilà, elle voulait jusqu'au bout l'aider au maximum. Mais bon, les aidants, ils s'épuisent aussi. Hein,
ils le payent cher. Ouais. Ouais.
Mais moi, voilà, je voulais dire un message d'espoir, dire à tous les gens qui se posent des questions, parce que souvent, je vais sur des blogs, je regarde, les gens, ils disent, ouais, tu prends pas tes médicaments, c'est pas grave, vas-y, file, c'est bon. C'est qu'un truc, on t'a mis une étiquette, machin, non, je suis désolée. C'est pas qu'une étiquette, hein. Malheureusement, quand le symptôme, il est là, il est là.
Non, puis surtout, ça me fait la peine quand vous me dites, je me suis sentie humiliée, parce qu'on n'y est pour rien quand on a une maladie. Il y a aucune raison d'être humiliée. Au contraire, on devrait avoir la compassion pour les gens qui sont malades.
Ouais, mais c'est très tabou, hein. Vous dites bipolaire à quelqu'un, tout de suite, c'est le premier mot qui leur devient, c'est fou. On est des fous, quoi.
Mais ça, c'est de la bêtise, ou de la non-connaissance de la chose. Toujours pareil, hein.
Non, puis ouais, de toute façon, dès qu'on parle de psychiatrie, même en 2021, c'est très compliqué, hein. Ouais. Les gens, ils veulent pas entendre ce mot-là. Au pire, il faut dire maison de repos. Moi, c'est que j'avais une idée, hein. On enlève le mot psychiatrie, on dit maison de repos. Je trouve que c'est plus doux. Psychiatrie, c'est tout de suite, c'est un fou, c'est une folle. Si elle va là-bas, c'est qu'elle a vraiment un gros souci. Il y a des gens qui sont là-bas, qui n'ont pas forcément des gros soucis, mais qui ont besoin d'être aidés.
Sonia, vous ne bougez pas, s'il vous plaît, on marque une courte pause. Je vous retrouve tout de suite. Si vous souhaitez prendre la parole ce soir, Fanny et Théo qui sont au standard me disent que c'est très très calme, profitez-en. 3921, je vous attends. Sonia.
Oui.
Vous étiez en train de me dire quelque chose qui est effectivement très important, c'est que dès qu'on prononce le mot psychiatrie, ça veut dire fou. Et je trouve ça terriblement injuste. Même quelqu'un qui est en dépression et qui se fait interner, on le prend pour un fou.
Voilà, c'est ça.
Toutes les maladies qui, de près ou de loin, touchent l'esprit ou le cerveau, c'est forcément associé. Enfin, forcément non, mais malheureusement. Soit c'est tabou, on n'en parle pas, on le cache. Soit on est jugé et on nous met dans la case fou.
Voilà.
Et c'est quand même terrible qu'en 2021, on en soit encore là, vous ne trouvez pas?
Ah, complètement, oui. Bah, d'ailleurs, moi, je ne parlais jamais de mes hospitalisations. L'autre jour, on était avec des amis, parce que ça devient des amis, ceux qu'on rencontre là-bas.
Mais oui,
je dis, au lieu de dire psychiatrie, si on va dire qu'on a été à Tombouctou, ça fait beaucoup plus fun.
C'est plus chic.
Ouais, non, puis ça me paraissait drôle comme mot. Et je dis, tu te rappelles quand tu étais à Tombouctou? Alors, du coup, il y a des oreilles qui écoutent. Ah ouais, qu'est-ce que c'était bien à Tombouctou, on s'est marré et tout. Parce que malgré tout ce qu'on dit, on arrive à rigoler quand même dans ces lieux.
Bien sûr.
Moi, bien sûr, je désacralise beaucoup et je suis toujours en train de raconter des blagues. Donc, quelque part, je soignais un petit peu les patients moi-même.
C'est une façon de mettre un peu d'oxygène dans tout ça.
Voilà, pouvoir le rire. Des gens qui, le matin, ils n'avaient pas trop le sourire. Quand ils ont passé quelques minutes avec moi, je leur raconte des blagues et ça va beaucoup mieux.
Mais vos amis proches, est-ce que vous arrivez quand même à leur en parler de manière complètement libre ?
Des amis proches, j'en ai pas forcément. J'ai toujours refusé un peu l'amitié, peut-être qu'on a voulu me donner.
Vous avez eu peur aussi ?
J'ai peur, oui. De comment le regard des autres.
Le jugement.
Le jugement, voilà. Ils font semblant de comprendre, enfin, quand ils comprennent rien. Donc, c'est pas grave, on leur demande pas. Hein. On vit avec. Hein.
C'est une question d'intention. Quelqu'un qui ne comprend pas, mais qui a de bonnes intentions, on peut prendre le temps de lui expliquer les choses. Si c'est quelqu'un qui est sincère et qui dit, écoute, je comprends pas bien ce qui t'arrive, est-ce que tu peux me dire précisément comment tu te sens quand t'es en phase comme ci ou en phase comme ça ? Moi, ça me gêne pas. Je sais pas si ça vous dérange, mais ça me paraît, quand l'intention est sincère, ça me paraît pas un problème.
Oui, d'accord. Oui.
Ce qui est plus compliqué, c'est quand la personne est j'allais dire un mot qu'on dit pas à l'antenne, mais comment on dit ça poliment déjà ? Malhonnête, pas malhonnête, mais pas sincère, voilà. Enfin.
Oui, d'accord. C'est faire semblant de croire qu'il a compris, comme ça on passe à autre chose.
Et derrière vous, elle dit les pires horreurs, ça c'est épouvantable.
Ah ben oui, voilà, c'est ça. De toute façon, moi je m'en fous qu'on me colle l'étiquette, j'ai rien à prouver à personne. Je trace ma route, les autres, s'ils veulent pas venir avec moi, c'est pas grave, moi je taille la route. Alors, j'ai déjà perdu beaucoup de temps, je trouve, parce que le fait de ne pas avoir accepté, j'ai perdu du temps, je trouve, sur ma maladie.
Bah c'est que vous aviez besoin de ce chemin-là, Sonia. C'est toujours facile de dire après coup, si j'avais su, et vous ne saviez pas à l'époque.
Bah oui, si j'avais su, je ne serais pas allée à Paris. Genre.
Il vous a fallu le temps de la maturité aussi pour accepter les choses.
Oui, il y a le syndrome de la quarantaine aussi qui a bien aidé. Et puis après, on se dit, bon, c'est bien, j'ai 40 ans, et qu'est-ce que je fais de mes 40 ans ? Je vais pas vivre 40 ans comme ça, il faut que je fasse autrement.
Alors maintenant que, si j'ai bien compris, grâce à vos traitements, vous êtes plutôt bien, plutôt stabilisé.
Oui, après, il ne faut pas trop s'asseoir sur ses lauriers, parce que les médicaments ne font pas tout. Il faut essayer aussi de ne pas trop aller vers des émotions trop fortes. Alors ça, c'est facile à dire, mais c'est très difficile, parce que quand vous avez un décès, même quand il y a des périodes euphorisantes, quand je suis super contente, mais en fin de compte, il faut que je fasse attention. Parce que quand je suis super contente, c'est pas mieux non plus.
Oui, bien sûr.
Mais quand je suis super triste, c'est pas mieux, il faut que j'évite les extrêmes.
Et vous le savez, c'est déjà l'avantage.
Voilà.
C'est là qu'il faut vous faire aider. C'est absolument là qu'il faut vous faire aider.
Voilà. Oui. Il y a quelques mois de ça, j'ai décidé de refaire un peu d'études, entre guillemets. Quoi. J'ai voulu passer mes cassettes et mon poids lourd. Alors, c'est toujours le problème, c'est sur la route. Bah, c'est pas grave, j'ai passé quand même mes cassettes et j'ai jeté quand même mon poids lourd. Mais
et vous avez tout, vous avez tout eu ?
J'ai tout eu, oui.
Eh ben bravo, dis donc.
Merci. Et j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire maintenant que je l'ai bien travaillé pendant 26 ans. Enfin, de toute façon, quand on travaille sa mémoire, ce qui est assez drôle, c'est qu'on arrive à revenir à des moments de la vie qu'on croyait complètement cachés. Moi, j'ai tellement travaillé ma mémoire que des fois, je raconte des histoires qui s'est passées à mes parents que eux-mêmes, ils ne se souviennent pas.
Il y a des reconnexions dans le cerveau qui se font.
Ouais, c'est ça. Parce que moi, quand je cherchais à savoir la mémoire, j'avais mon cerveau, il allait exploser. Plus je cherchais, plus mon cerveau, il allait exploser. Et à force de malmener ce pauvre cerveau, il a fini par me rendre ce que je voulais, ma mémoire. Après, moi, je suis en vie. C'est toujours ce que je dis, j'ai cette chance, je survis, c'est comme la maladie comme disait Grégory de Martial, je suis en vie. Mais par contre, maintenant, je vis avec ça. Oui. Et à chaque fois qu'il retrouve quelqu'un, justement, qui a été enlevé, c'est le même cheminement.
Et le choc remonte.
Pourquoi nous ? Oui. Pourquoi nous ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi qui allais si bien dans ma vie et tout, j'aurais dû être connue ce mois-là, parce que dans les journaux, ça s'affolait. Elle disait que j'avais une bronchite. Alors, le mois où je devais être au championnat de France. Et puis bon, après, ils ont pu parler de moi. Alors là, c'est pareil, j'ai fait du tri. Hein, parce que quand on passe dans le journal quasiment deux fois par semaine, au niveau des gens qui vous côtoient, quand vous n'êtes plus dans le journal, vous n'existez plus. Ah. Et encore, moi, c'était un petit niveau. Alors ceux qui sont à un haut niveau, j'en ai croisé. Hein, quand on a été avec les relayeurs du 4x100 champion olympique, on a été avec ces gens-là, le haut niveau, ça donne pas forcément envie.
Oui, c'est un peu chacun pour soi.
Oui, ben voilà, c'est ça. Et puis, mais j'ai eu la chance de vivre tout ça déjà, avant mes 20 ans. À 10 ans, je faisais déjà des compétitions à niveau national en roller de vitesse, plus l'athlétisme, qui est venu après.
À chaque fois
que je faisais un nouveau sport, j'étais toujours dans les premières.
Et comme vous dites, j'ai eu la chance de vivre ça, c'est déjà ça de pris sur la vie. Hein.
Oui, parce que je me dis, j'ai eu 20 années fabuleuses. J'ai eu 26 années, c'est pas fabuleux, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, voilà. J'ai eu cette chance-là aussi de pouvoir avoir une vie malgré tout à côté.
Ouais. On va dire des années d'apprentissage.
Voilà, ouais. Puis même si, ok, je suis bipolaire et tout, ça c'est pas un souci. Maintenant que je l'ai accepté, ben voilà, je pense que je vais aller encore un peu mieux. Mais ben malgré tout, j'ai quand même réussi à faire entre guillemets une vie un peu stable quand même. Parce que c'est la difficulté, hein, la bipolarité. Mon mari, il a subi des choses terribles. Hein. Je m'en prenais à lui alors qu'il avait rien fait. Et c'était la maladie qui était là.
Et ça, il l'a compris ?
Bah oui, mais il a eu très peur. Hein. Des fois, c'est compliqué. Hein.
Et maintenant, comment il le gère maintenant qu'il sait, maintenant que vous savez, maintenant qu'il y a le traitement, comment ça se passe ?
Ben, par exemple, mon fils et puis mon mari et mon cadre, souvent le soir, est-ce que tu as bien pris tes médicaments ?
Il a quel âge, votre fils ? Alors,
mon fils, il a 16 ans. Mais
c'est un grand.
De toute façon, maintenant, il y a l'infirmière qui vient. Donc, devant l'infirmière, je prends mon traitement. On est content.
Mais je pense que c'est, voilà, c'est cet amour-là qui vous entoure, qui vous soutient aussi. Hein.
Ben oui, j'ai la chance d'avoir une super famille. Hein. Pff, oh là là. Et tout le monde n'a pas cette chance-là. Quand je vois des petits jeunes qui me racontent qu'ils ont été à la rue et tout, là, il n'y a pas si longtemps que ça, une voisine qui s'est installée à côté de chez nous, elle a été un an à la rue, elle dit, mais ils sont où les parents ? Moi, j'ai ma fille qui a 22 ans, l'autre, si elle a un problème, de toute façon, la porte est toujours ouverte, il y aura toujours une chambre pour elle.
Ouais. Mais alors, dites-moi, Sonia, il y a eu cette première partie de vie, puis cette seconde, la troisième là, qui démarre. Qu'est-ce que vous aimeriez en faire, les années qui viennent là maintenant ? Qu'est-ce qui vous ferait du bien ?
J'aimerais avoir un travail qui soit adapté à mon handicap. Mm-hmm. Parce qu'en fin de compte, à chaque fois, je me mets dans du travail, que ce soit n'importe quoi. J'ai même travaillé dans un bureau une fois au lycée. Après, j'étais factrice. Mais dès qu'il y a un peu trop de pression, j'y arrive plus, quoi.
Ça serait
Dieu sait qu'il y a beaucoup d'entreprises où il y a beaucoup de pression.
Ben oui, c'est ça. Ça serait quoi pour vous le travail idéal, alors ?
Moi, j'aimerais bien cet espace vert. J'aime bien débroussailler, j'aime bien prendre la pelouse, tailler les haies, tout ça, je fais ça chez moi.
D'accord. Est-ce que vous avez commencé à postuler dans ce domaine-là, dans cet univers-là ?
Ben là, j'attends parce que mon dossier doit partir. Donc, je me dis que ça ne sert à rien que je postule trop tôt si je ne sais pas la réponse. Mais j'ai déjà eu des contacts parce que je travaille avec l'intérim depuis 3 ans. En 3 ans, j'ai fait 30 entreprises.
Ouf ! Ben dis donc.
Alors, si j'ai fait autant d'entreprises, c'est parce que à chaque fois, c'était forcément des remplacements, des fois un mois, des fois 2 mois. Des fois, c'était une journée à coller des étiquettes, par exemple. Bon, c'est sûr, on ne réfléchit pas, là. Côté émotionnel, côté libre, on met l'étiquette sur la bouteille. Donc, voilà, il faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Mm-hmm. Et dans les 30 entreprises, j'ai été ouvrière agricole 2 fois. J'ai travaillé dans la menuiserie, la sidérurgie, toujours des trucs un peu costauds, quoi. Faut pas m'embêter. J'ai une ancienne collègue, elle me dit comme ça, toi, quand t'arrives comme ça, on n'a pas envie de t'embêter. Je dis, ça veut rien dire à la carrure.
Vous avez une énergie très masculine, c'est marrant. Force
oui,
de caractère, les motos, les camions, tout ça.
Voilà, c'est ça. Mais j'ai été avec mon frère qui avait 15 mois de plus que moi, c'est pour ça. Nous, on était tout le temps à l'établi en train de fabriquer des trucs, des jouets, on se fabriquait des échasses, on récupérait des grosses bobines de fil, on montait dessus, on faisait des équilibristes. Mon frère, il a soudé un volant de camion sur le vélo. Que des trucs.
Bon, en tout cas, Sonia, je vous remercie vraiment d'être venue parler de ça, parce que c'est toujours un parcours intéressant de comprendre par où on passe. Comment on passe du déni à l'acceptation, comment on évolue, comment on avance avec cette maladie, avec toutes les maladies d'ailleurs, c'est toujours vraiment intéressant.
Ben oui, toutes les maladies. Hein. Mon père avec sa maladie, c'est pareil.
Ça peut donner de l'espoir à beaucoup de gens aussi de se dire que voilà, tout ne s'arrête pas. Il faut arriver à l'accepter, il faut arriver à s'équilibrer, et il faut se donner des objectifs qui nous font du bien.
Et puis là, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, moi un jour en blaguant, je dis pour moi le confinement, c'est rien. Parce que moi, j'ai vécu en psychiatrie, alors
ça, c'est
autre chose que le confinement.
Sonia, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. J'espère que vous avez trouvé plein de jardins, plein de choses qui vous plaisent.
Ah oui, oui.
Et encore de belles balades en moto, en tout cas.
Merci.
Merci pour votre appel.
Merci de m'avoir écouté, Sabine.
Avec plaisir.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est Sandrine que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir, Sandrine.
Merci à vous, Sabine. Oui, je vous appelle parce que j'ai entendu l'auditrice précédente qui évoquait qu'elle avait fait travailler sa mémoire pour retrouver ce qu'elle avait dû vivre.
Les morceaux du puzzle, quoi, oui.
Oui, tout à fait. Au moins, il s'avère que, il y a une vingtaine d'années, à la suite d'un divorce, j'ai fait un groupe de paroles sur le couple. Et à l'issue de la fin d'année, il fallait qu'on prépare un travail. Et une amie m'avait donné un livre sur le couple. Et en le lisant, je me suis écroulée. Je me suis mise à sangloter pendant 3/4 d'heure.
Ça parlait de quoi, ce livre ?
Dans ce livre, il y avait un passage sur des attouchements, je ne sais pas, sur un incest, sur des attouchements. Et je me suis écroulée, je me suis mise à pleurer, mais à pleurer, à sangloter comme je ne sais quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a eu quelque chose, quoi.
Il y avait rien de conscient à ce moment-là, vous n'avez pas eu une image ou un souvenir consciemment, rien n'est revenu.
Sur le moment, non.
Non, d'accord.
Sur le moment, non, mais j'étais très, 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 très choquée.
Bouleversée, oui.
Et comme j'étais en thérapie, j'en ai parlé à ma thérapeute. Et au moment où j'en ai parlé à ma thérapeute, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash fugitif de quelques secondes. Et c'était atroce parce que c'était en train de me démolir toute mon enfance, quoi. C'était super dur. Mais ça n'a duré que quelques secondes. J'ai eu deux flashs. Ce flash dans le cabinet de la thérapeute et un autre soir dans mon lit où j'étais prise de tremblements et c'est comme si on était à côté de moi. Et on était à côté de moi et je tremblais. Ces deux flashs-là, mais depuis 20 ans, je voudrais retrouver plus. Et en fait, ce traumatisme devait remonter à l'âge de 4-5 ans.
Est-ce que vous vous sentez capable de m'en parler là ce soir ? Est-ce que ça va aller si on en parle ?
Oui, j'espère.
Parce que c'est important, si je peux essayer de vous aider, j'ai besoin un peu de comprendre le cheminement et ce qui a pu vous arriver. Vous avez grandi dans une famille qui était comment déjà ?
Très difficile.
Combien d'enfants ?
J'avais une sœur.
D'accord.
Mes parents, il y avait de la violence qui s'est d'ailleurs répétée dans mon couple. D'ailleurs, je vous avais eu au sujet de problèmes relationnels avec ma fille il y a quelque temps. Mmh. Et puis, mon père a eu une tuberculose. Et à l'issue de sa tuberculose, comme c'était contagieux, on a été confiés, moi, chez mes grands-parents et ma sœur chez des amis. Oui. Et pour moi, ça a dû se passer à ce moment-là.
C'est-à-dire, c'est votre grand-père qui serait en cause ?
Mais c'est atroce. C'est vraiment atroce. Ça me détruit toute mon enfance. Je me dis, mais est-ce que je me trompe pas ? Est-ce que ça peut être certain ? Est-ce que, voilà. Mais pourquoi je me suis écroulée comme ça en lisant ça ? Il y a bien eu quelque chose. Pourquoi Et ça a été qu'un flash de quelques secondes, son visage et l'endroit. Et cette semaine, je lisais un livre d'un auteur russe, Ivan Tourguenev, Premier amour. Il y avait une image dans le jardin et d'un seul coup, je me dis, mais je venais dans le jardin et j'étais reprise de tremblements. Depuis 20 ans, dès qu'il y a un truc sur... Je me sens mal, j'ai un mal-être, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais je n'ai pas plus de réponse à ça, quoi.
Est-ce que c'est comme si une partie de vous revivait vraiment la scène avec en tout cas les émotions du moment, de cette époque ?
C'est,
Sans comprendre vraiment, est-ce que vous avez l'impression que les émotions seraient presque aussi fortes que quand c'est arrivé, si c'est arrivé?
Oui, et puis bon, ben, il y a beaucoup de choses qui s'expliqueraient, quoi, par rapport à comment j'étais dans mon mariage, dans mes relations à ce moment-là. Et
vous étiez,
en fait,
attendez, c'est important, vous étiez comment dans votre mariage?
Ben, par exemple, c'est délicat de dire ça à l'antenne, mais dans les rapports, je n'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine, quoi. Je ne supportais pas mes caresses.
L'intimité, oui.
Oui. Et ensuite, il faut dire que j'ai eu une relation, je pense que c'est ça qui a permis que... qui a fait que ça s'est révélé. Parce que, en fait, cet homme qui a eu après a mis beaucoup de douceur. Beaucoup, énormément de douceur, et m'a permis d'aller à un stade, et je pense même, et quand j'ai eu la révélation, je pense que je m'en sens très coupable, parce que je pense que même j'ai dû éprouver pendant, voilà quoi. Et le fait d'avoir pu, que quelqu'un ait mis beaucoup de douceur, m'a permis de ça m'a fait redépasser, et peut-être revenir quoi.
D'accord.
Vous voyez ?
Alors, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que vous l'avez tout de suite raconté à votre thérapeute, ce qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pendant la séance ? Qu'est-ce que vous en avez fait de ça, toutes les deux ?
Eh bien, ça a été très mal accueilli. C'était un homme.
Ah.
Et ça a été mal accueilli. Et d'ailleurs, mais bon, il s'en est voulu parce qu'en fait, c'est un endroit où on ne fait que 10 séances. Et après, quand j'ai tourné à l'issue de la mort de ma mère, il m'a dit, et comme je lui ai dit comme j'avais vécu, il dit, bah oui, mais c'est, on ne fait pas vraiment un travail de thérapie, on fait, et je m'en veux. Et après, j'ai vu une femme avec qui j'avais commencé une analyse, mais qui malheureusement est partie pour une mission humanitaire et arrêtée, et avec qui ça se passait très bien.
Ah, c'est dommage.
Et l'homme, c'est tout juste s'il ne l'avait pas mis en doute, quoi. Et c'était tellement dur de soulever ce couvercle, c'était tellement dur ce qui s'était révélé à moi. Et vous voyez, c'est comme quand on dit qu'on va dans un commissariat et puis qu'on ne vous croit pas, quoi.
On ressort, on est encore pire qu'en arrivant, quoi, ouais.
Oui, tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Et donc, j'ai plus ou moins remis le couvercle dessus, mais ça me rattrape souvent. Il y a une mission, il y a quelque chose, tout mon être va mal. Tout mon être se met à trembler.
Oui, là, il est clair qu'il y a une partie de vous qui cherche à vous dire quelque chose. Mais depuis que cette psy que vous aimiez bien est partie, pourquoi est-ce que vous n'avez pas recherché quelqu'un d'autre?
J'essaie. Je vous ai dit, là, même j'ai été voir une hypnothérapeute.
Alors, j'allais vous poser la question, parce que c'est typiquement un sujet qu'on travaille en hypnose. Hein.
Alors, oui, mais c'est justement, aujourd'hui, j'ai une séance avec elle, et ça, au départ, c'est la quatrième séance, mais les premières, c'est de me présenter, et là, je lui dis, maintenant, j'ai envie qu'on travaille différemment. Moi, de la thérapie, j'en ai fait.
Racontez votre vie, vous avez déjà fait 10 fois, ça, c'est bon.
J'ai envie d'aller vers autre chose, mais là où elle me casse, c'est qu'elle me dit, vous n'aurez jamais la réponse, il faut abandonner, il faut accepter que vous ne saurez jamais.
Oh là là. Bon, enfin bon.
Et c'est pour ça que quand j'ai entendu la personne précédemment dire qu'elle avait travaillé sa mémoire pour retrouver tout ce qui était enfoui, je me dis, est-ce que je peux me contenter de ça? Est-ce que je peux me contenter? Est-ce que je peux... Tout mon être souffle très souvent et on me dit d'accepter, de ne pas chercher, de ne pas...
Donc vous l'avez la réponse, bien sûr que non, vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Vous pourriez vous en contenter si vous étiez apaisé, ce n'est pas le cas, il y a une partie de vous qui est en alerte permanente, là, hein. Comme si vous aviez une épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le temps.
Et je n'ai pas refait ma vie. Pour moi, si je n'ai pas refait ma vie, si je n'ai plus confiance aux hommes, c'est dû à ça, quoi. Et je voudrais avancer.
Alors, c'est dommage que vous soyez tombée sur une hypnothérapeute avec qui ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez pensé à l'EMDR, dont je vous parle souvent, qui, là, pour le coup, me paraît extrêmement indiqué? Thérapie par les mouvements oculaires sur un traumatisme comme ça.
justement, on me l'avait conseillée parce qu'elle est hypnothérapeute EMDR.
Oui, bon, bah écoutez, c'est...
Mais elle m'a dit, on fera le MDR quand vous aurez lâché ça.
Oui, c'est précisément l'inverse, c'est avec le MDR que les choses remontent.
Oui.
Bah, vous savez, on ne tombe pas forcément toujours sur la bonne personne du premier coup, hein, quel que soit le métier. Malheureusement, il n'y a pas que des gens... Soit elle n'est pas compétente, soit elle ne vous correspond pas, ce n'est pas la bonne personne pour vous. J'en sais rien. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Parce que vraiment, dans un cas comme celui-là, le MDR, c'est tout en douceur et ça permet de relier les choses et de faire remonter petit à petit ce qui remonte. Et on prend ce qui remonte à chaque séance, si vous voulez. On ne décide pas avant ce qui se passe, on attend de voir ce qui remonte et avec ce qui remonte, on travaille dessus. Et on baisse l'intensité des émotions à chaque fois pour pouvoir en travailler dessus et les diminuer.
C'est justement, et je l'avais choisie parce qu'elle était à la fois hypnothérapeute et EMDR.
Il y en a beaucoup hein, qui font les deux. Il y a aussi des psys qui font de l'EMDR de plus en plus.
Mais bon, ben voilà, elle veut que je lâche. Elle me dit, il faut accepter. C'est pareil, j'ai eu un autre traumatisme, c'est que j'ai eu un accouchement où il s'est passé un problème et j'ai crié au chirurgien pour savoir, et le chirurgien est sorti effondré de, comment dire, et j'ai perdu mon enfant 8 jours après. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'y allais, c'était un colosse, et il blêmissait devant moi, et j'ai fait rouvrir le dossier une fois que j'étais divorcée, mais il ne me dit pas la vérité. J'ai eu le dossier sur les genoux quand j'étais transférée la grossesse d'après, et le dossier était faux. J'étais juste à un franc, et c'était marqué dessus que j'étais arrivée que le col était complètement dilaté. C'est pas vrai. Le dossier, même si on a le dossier est faux, ce qu'il y a dedans. Et je veux savoir, parce que je n'en voudrais pas à ce chirurgien, parce que, comment dire, ils ont des métiers très durs, mais en tant que mère, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé.
Mais bien sûr. Alors, je suis vraiment désolée, je vais être brutale, mais le « il faut oublier » ou « vous ne serez jamais », ce n'est pas de l'hypnose. Pour moi, ça n'est pas entendable de dire ça à sa patiente, franchement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas le il faut oublier, pas du tout.
Alors, elle me dit ces deux traumatismes. Il faut que vous acceptiez que vous ne serez pas. Il faut que vous lâchiez ça.
D'abord, il n'y a pas de il faut en hypnose. Il n'y a aucun il faut. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment. Le seul il faut, c'est vous accompagner là où ça vous fait du bien. Et c'est-à-dire qu'en plus, ce que j'entends là d'important, c'est qu'il y a eu plusieurs gros traumatismes dans votre vie, a priori.
Oh oui.
Et que vous savez,
même eu d'autres.
Quelquefois, en souterrain, sans qu'on en ait conscience, notre inconscient fait des liens entre ces traumatismes-là. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant avec le MDR, c'est qu'on laisse l'inconscient s'exprimer, on laisse le cerveau s'exprimer et on voit ce qui remonte. Et quelquefois, on pense travailler sur un trauma et ce sont des images d'un autre qui reviennent et on comprend qu'il y a un lien. Et on travaille sur ce lien-là petit à petit pour libérer tout ce qui a pu faire mal.
Je voulais vraiment votre avis. Est-ce que je dois accepter de lâcher ? Non, pour vous, je ne dois pas accepter.
Mais accepter, vous ne pouvez pas le faire de manière volontaire. S'il y avait un bouton, j'accepte, ce serait tellement plus facile. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne suffit pas qu'on vous dise, allez, acceptez, puis passez à autre chose. Ben non, attendez, quand on a vécu des choses comme ça, on ne peut pas accepter comme ça. Avant d'arriver à accepter, il faut d'abord arriver à vous libérer de tout ça.
Oui.
C'est comme si vous aviez eu à avaler des morceaux tellement gros qu'ils ne sont pas digérés. Vous savez, j'avais déjà expliqué ça une fois à l'antenne, il y a le cerveau, on a 3 parties dans le cerveau. Le reptilien, le premier cerveau, qui lui réagit dans l'urgence. Il est là pour la survie. Donc il vit intensément ce qui se passe, et ensuite, bon ben voilà, j'ai survécu. Imaginez, je vais vous faire une métaphore plus simple, je fais un pas dans la rue et je manque de me faire écraser par un bus. J'ai une énorme frayeur, je fais un bond en arrière. Ouf, ça y est, j'ai vécu l'événement, mais je suis entière, je suis encore vivante, donc l'événement passe au cerveau qui va s'occuper des émotions, gérer les émotions. D'accord ?
Oui.
C'est le limbique. Il va gérer les émotions et il va se dire, bon, j'ai eu très peur, mais objectivement, je suis entière, tout va bien. Et donc, on digère l'information. Intellectuellement, émotionnellement, elle est digérée. Mais quand l'émotion est beaucoup trop forte, elle reste coincée au deuxième niveau. Elle a été vécue, certes j'ai survécu, Mais ça reste coincé au niveau émotionnel, ça n'arrive pas à être digéré par le niveau intellectuel. Et quand ça tourne au niveau émotionnel, ça crée plein de troubles. C'est comme si le morceau était tellement gros qu'on ne peut pas arriver à l'intellectualiser. Comme vous me dites, il faut que j'oublie. Mais il faut que j'oublie, c'est de l'intellectuel, ça. C'est prendre une décision en disant voilà ce qu'il faut que je fasse de mes émotions. Mais les émotions, on ne les gère pas si facilement que ça.
Non. Oh non.
D'où l'intérêt de l'EMDR, c'est qu'on découpe un peu tout ça en petits morceaux. Et c'est plus facile à digérer par la suite.
Mais vous, Sabine, le fait qu'il y a 20 ans, je m'écroule en lisant un texte et je m'y sangloter pendant trois quarts d'heure, c'est pas anodin, c'est que ça m'évoquait quelque chose.
Ah bah évidemment.
C'est qu'il y avait un traumatisme qui était en train de remonter. C'est d'une violence, mais d'une violence incroyable.
Ça ne peut pas être anodin. Alors attention après à l'interprétation, c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. Oui. On n'est pas sûr de ce que c'est. On n'est pas certaine, c'est pas si facile que ça. Mais évidemment, il y a quelque chose. Ça ne peut pas remonter comme ça s'il n'y avait rien. Une émotion violente qui revient, sans qu'on comprenne pourquoi, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'elle est restée coincée quelque part, un jour il s'est passé quelque chose. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné à l'antenne il y a très longtemps, mais qui est très parlant. J'ai reçu un jour une dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ça faisait 10 ans qu'elle essayait. Alors, un peu comme vous, elle est tombée sur un hypnothérapeute qui, pendant 10 séances, lui a fait répéter « Je ne peux pas avoir d'enfant, j'accepte. Je suis malheureuse, j'accepte. » Quand elle m'a raconté ça, j'ai fait des bons. C'est pas de l'hypnose, ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de « j'accepte d'être malheureuse », ça n'existe pas. Et sous hypnose, alors on est passé par plusieurs chemins, elle a fini par avoir une image qui lui remontait très violemment. Elle s'est mise à pleurer en me disant « C'est horrible ce que je vois. » Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voyez ?» Elle m'a dit « J'ai un bébé mort dans mon ventre. » Donc, ok, on est allé plus loin. On a travaillé en transgénérationnel. Je lui ai demandé quelle était l'image d'après. Elle me dit « C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai 2-3 ans et que je suis derrière une porte et que j'entends ma mère et ma grand-mère qui pleurent. Et ma grand-mère dit « Mon bébé est mort. » Alors, est-ce que c'était un enfant mort-né, une fausse couche, un accident ? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que cette petite fille qu'elle était, elle a vécu cette scène un jour. Elle a entendu des choses. Elle a compris qu'il ne fallait pas en parler parce que tout le monde pleurait. Elle a compris qu'il y avait un bébé qui était mort symboliquement. Elle n'a pas su quoi en faire, elle l'a mis dans son ventre. Et 35 ans plus tard, quand elle a voulu faire un enfant, elle n'y arrivait pas. Sauf que cette scène-là qu'elle avait vécue consciemment, elle l'avait absolument oubliée, évidemment. Mais elle l'a vécue. Oui. Tout ce qu'on a vécu, et forcément, quelque part, ça n'a pas disparu. À cette occasion-là, c'est remonté, donc on a pu travailler sur ça, faire le deuil symbolique de cet enfant, faire un grand nettoyage. Elle est tombée enceinte un mois après. Quand le corps réagit, quand des images arrivent, il y a forcément une raison. Elles ne peuvent pas avoir été inventées, ces images.
Mais ça peut être quelque chose de différent. L'enfant, c'était dans la famille, c'était pas elle, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que je dois prendre la première image au premier degré, non.
C'est là où je vous dis qu'il faut être prudent et qu'il faut être bien accompagné, parce que quelquefois, le cerveau, notre cerveau, notre inconscient fonctionne par symbole. Et ça n'est pas forcément aussi clair que ça peut paraître. Il peut y avoir une représentation masculine. Je dis n'importe quoi, parce qu'une fois de plus, je ne connais pas votre cas, mais peut-être que l'image du grand-père peut simplement être l'image de l'autorité masculine qui a pu être représentée par quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un à l'extérieur, vous voyez. Il faut quand même être extrêmement vigilant sur l'interprétation. Par contre, ça ne vient jamais pour rien. Évidemment, ça ne vient pas pour rien. Une émotion qui sort comme ça, il y a une raison. Tout ce qu'on a vécu, on l'a forcément quelque part, mais on n'y a pas accès. Surtout quand c'était il y a très très longtemps.
Ben oui, c'est il y a tellement longtemps, et je me dis, j'ai entendu tellement de personnes dire qu'ils ont eu une amnésie traumatique ressort au bout de je ne sais combien de temps. Mmh. Et pour moi, c'était d'une... Et puis pourquoi maintenant, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a, quelque chose ou des passages, je suis super mal, quoi.
Moi, je pense que ça veut dire qu'une partie de vous est prête maintenant à affronter ça, à le faire sortir. Manque de chance, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne pour vous accompagner. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter.
J'ai mis 20 ans d'aller voir une hypnothérapeute parce que j'avais peur de découvrir. Et puis j'arrive, je me rétame. J'étais prête. Là, j'étais prête. Oui, j'avais peur. J'avais peur de ce que j'allais découvrir. J'ai peur de découvrir ce que je vais découvrir. J'y vais, et puis on me dit, mais il faut accepter que vous ne saurez jamais. Voilà.
Non, mais là, je vous dis, je suis désolée, sans vous êtes mal tombée, ça arrive. Ça arrive.
Ouais, c'est que
ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Avec tous les praticiens ne sont pas forcément bons, ou alors simplement certains sont très bons, mais ça ne colle pas avec soi-même. Il y a une question de feeling aussi entre deux personnes. Ça peut ne pas fonctionner. Bon, voilà, je ne veux pas du tout dire du mal d'elle, j'en sais rien. Je ne sais pas comment elle a travaillé. J'entends des choses qui me choquent. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne méthode.
Elle m'avait été recommandée. Elle m'avait été recommandée donc, par quelqu'un qui avait fait sa formation en même temps qu'elle. Elle m'avait été recommandée par quelqu'un qui avait fait sa formation en même temps qu'elle. Donc, j'y suis allée sans...
Mais vous savez, quelquefois, une fois de plus, un thérapeute peut convenir à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre.
Tout à fait.
C'est pour ça que c'est très délicat et que moi, je n'aime pas recommander des gens parce que je peux avoir des retours très différents. Quelqu'un peut me dire « Elle est merveilleuse, fantastique, merci. » Et l'autre peut me dire « Pourquoi vous m'avez envoyé chez elle ? J'ai pas aimé du tout. » C'est tellement intime comme travail que c'est compliqué de recommander quelqu'un.
Alors, comment trouver une bonne... Et puis, c'est pas du tout évident.
Je pense qu'il faut faire un rendez-vous et que vous avez maintenant l'expérience nécessaire pour vous rendre compte si ça colle ou pas.
D'accord.
Et puis, prenez quelqu'un qui a un peu de bouteille, qui a fait quelques années quand même, qui sort pas de l'école, parce que là, il y a du boulot. Il y a un vrai travail à faire avec vous.
Oui.
Hein, quelqu'un qui a fait un peu de route.
Oui, tout à fait.
Et qui saura surtout quoi en faire de ce qui va remonter.
Parce que j'ai eu aussi d'autres traumatismes, une agression à 20 ans où j'ai failli mourir dans la rue, on m'a étranglé. J'ai eu divers traumatismes, oui.
Et oui. Et donc moi, l'image que j'ai là quand vous me parlez, Sandrine, c'est comme un gros chêne, un gros arbre qui à l'extérieur tient à peu près droit, mais en dessous les racines sont complètement emmêlées et il y a plein de choses qui se superposent et qui s'en mêlent.
Oui, je l'aime. Et je suis certaine que je le paye. Je fais face, mais je le paye. Et je voudrais avancer différemment, quoi. Je voudrais lâcher tout ça.
Mais je pense que vous êtes prête, et c'est probablement ce qu'une partie de vous essaie de vous dire. Avec ces quand les émotions arrivent comme ça, c'est qu'elles sont prêtes à être traitées. Il vous faut juste trouver la bonne personne qui va vous aider à ça.
D'accord.
N'ayez pas peur de retrouver tout ça, parce que ce qui est compliqué en ce moment, c'est de ne pas savoir.
Tout à fait.
C'est comme si vous aviez un fantôme derrière vous tout le temps. À un moment donné, mieux vaut se retourner et savoir qui c'est ce fantôme et ce qu'on en fait. Et l'inviter à aller voir ailleurs si j'y suis.
Tout à fait. Écoutez, je vous remercie infiniment.
Et j'aimerais bien, si vous en avez envie, que vous me donniez des nouvelles après, Sandrine.
Tout à fait.
Que vous ayez trouvé quelqu'un qui vous aide et qui vous ait sorti un peu de tout ça.
J'espère. Et je ne manquerai pas de vous tenir informée. Merci beaucoup à vous.
Avec grand plaisir. Je vous embrasse, Sandrine.
Au revoir.
Et bonsoir Olga.
Bonsoir Sabine.
Je suis ravie de vous récupérer, de vous retrouver.
Et moi aussi.
Alors on s'était parlé, c'était, je ne sais plus, c'est dimanche soir je crois.
Oui.
En fin d'émission et on n'avait pas eu le temps d'aller plus loin sur un sujet qui était vraiment intéressant. On avait parlé de l'adoption et des problèmes d'un adolescent. Il a 15 ans je crois, 15-16 ans votre...
C'est ça, tout à fait.
Est-ce que pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, vous pouvez juste nous faire un petit résumé s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Mon fils a 16 ans, nous l'avons adopté quand il était âgé de 5 ans et demi. Il a très vite réussi à s'adapter parfaitement à la vie ici en France. Nous l'avons adopté à l'étranger, en Chine. Et malheureusement, lorsque en 2016, mon mari a eu un souci de santé et il est décédé en 2017, donc il y a 4 ans, ça a été un coup... très dur pour à la fois mon fils et moi-même.
Bien sûr.
Et maintenant qu'il a 16 ans, tous ces traumatismes se manifestent de plusieurs façons, donc des pensées suicidaires et une colère très intense, qui devient pour moi difficile à gérer et qui est très douloureuse pour lui et en grande souffrance.
Oui, bien sûr. Et ce qu'on avait commencé à se dire, c'est que déjà, les enfants qui sont adoptés ont souvent de manière plus ou moins présente, une énorme colère en eux, évidemment. Parce que la vie ne leur a pas fait de cadeau à la naissance. En plus, c'est un petit bonhomme qui est resté 5 ans, j'imagine, oui. Dans quelles conditions de vie ?
Alors ça, c'est particulier, on a très très peu d'informations. Les autorités des pays, les informations qu'on peut avoir dépendent vraiment du type des autorités des pays. Et nous, en Chine, on a vraiment eu accès à très peu de choses. Même quand on est allé le chercher, on nous a limité à la salle de réception où on a reçu, c'était vraiment ça le mot, reçu l'enfant.
Ah, vous n'avez même pas vu là où il dormait, là où il vivait ?
Non. Pourtant, les gens de l'association par laquelle on l'a adopté, les responsables étaient venus avec moi. Ce sont des personnes très professionnelles, très compétentes, qui avaient des contacts avec le CCAS, qui est l'équivalent de la DAS chinoise, avaient noué des contacts très, très forts, très importants, à un haut niveau, n'ont pas pu accéder, pensaient pouvoir visiter l'orphelinat, ils n'ont pas pu accéder aux chambres.
Malgré ça, ils n'ont pas réussi.
Non.
Mais est-ce que vous savez,
très opaque.
Est-ce que vous savez quand même s'il a toujours été dans une institution ou s'il a été arrivé peut-être à 2 ans ou à 3 ans ou tout petit ?
Non, il a été abandonné à la naissance.
À la naissance, donc c'est quand même un petit garçon qui a un lourd passif. Parce que 5 ans, c'est long, c'est très long.
Oui.
Émotionnellement,
oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont imprimées en lui.
Oui, il a des souvenirs de l'orphelinat et ce sont des souvenirs... maintenant qu'il a 16 ans, il arrive à analyser que tout l'affect, toute la construction qui lui a manqué. Il arrive à comprendre ça.
Bien sûr. Alors j'imagine que comme tous les enfants adoptés, il y a eu un suivi psychologique au début et peut-être un peu après. Comment ça s'est passé avec vous et lui ?
Pas du tout. Enfin, nous, on habite dans le sud de la France. Donc à son arrivée en France, il y a eu des suivis plutôt médicaux. Son adaptation se passant plutôt bien scolairement. C'est un petit bonhomme qui respirait la joie de vivre, qui riait beaucoup, qui était très énergique, qui ne montrait aucun signe extérieur de mal-être.
D'alarmant, quoi, d'accord.
Oui, aucun. On s'est rendu compte, en fait, à la fin de son parcours scolaire en primaire, qu'il avait souffert de harcèlement, de racisme. Et c'est à travers ça qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait eu des soucis. Et c'est le décès de mon conjoint, donc de son père, qui a tout déclenché. Même s'il s'est évertué à cacher, à ne pas montrer. Et c'est cette année que ça explose, en fait, parce qu'il ne peut plus contenir tout ça. Il n'y arrive plus.
Oui, on avait commencé à en parler aussi. C'est un deuxième traumatisme, un enfant qui a été adopté et dont les parents divorcent ou dont l'un des deux décède.
Oui.
C'est épouvantable, c'est deuxième tsunami, quoi.
Ben oui, parce que quand, dans la procédure d'adoption, les autorités font très attention à confier des enfants à des couples qui sont en bonne santé et c'est pas pour rien, voilà. Et bon, les hasards de la vie font que on peut pas prévoir, voilà.
Vous savez, même les couples stables, qui sont très stables au moment de l'adoption, sont souvent déstabilisés et divorcent après. Hein. Ça arrive aussi, on n'en parle pas beaucoup. Mais croyez-moi, ça arrive aussi. Hein. Parce que c'est pas toujours si facile que ça, parce que malheureusement, les adoptions ne se passent pas toujours bien. Et quelquefois, dans ces cas-là, c'est courage fuyons et le divorce arrive dans les années qui suivent. Hein. Et ça aussi, c'est très compliqué. Là, ça déclenche des colères monumentales chez ces enfants-là aussi.
Oui, bah, c'est un peu ce qui se passe avec mon fils. Il a des colères intenses, fortes. Mmh. Et pour le coup, là, c'est moi aussi qui, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'arrive plus à gérer. C'est comme si mon cerveau disait stop, je ne peux plus, je suis... extrêmement fatiguée de ça.
Ben, c'est normal émotionnellement.
Et fatiguée de pas pouvoir trouver là où les clés ou la façon de l'aider à.
Alors à avancer, oui, à sortir. Je pense qu'avant qu'il avance, il faut qu'il sorte toute cette colère et cette tristesse.
Mais c'est ça.
Il faut que ça sorte.
C'est ça qui est compliqué.
Alors j'ai beaucoup pensé. Oui, pardon, allez-y.
Oui, non, allez-y.
Je vous disais, j'ai beaucoup pensé à vous cette semaine parce qu'on s'était dit à la fin, il y a deux choses. On va pour l'instant mettre de côté le côté enfant adopté et juste s'intéresser à lui. Ça reste un garçon qui a entre 15 et 16 ans.
Oui. Hein,
on en riait ensemble dimanche dernier, ça reste quand même un ado.
Et oui.
Avec des soucis d'ado, et ça me paraît logique.
Et oui, bien sûr.
Et là où je vous dis que j'ai pensé à vous, c'est que je recommande souvent un petit livret qui s'appelle attendez, ça va me revenir. Guide pour les parents d'ados qui pètent les plombs, quelque chose comme ça. Et je l'ai trouvé en PDF. Ça veut dire que je l'ai téléchargé et je le mettrai demain sur ma page Facebook Sabine Marin Officielle. Ah, comme ça, je pense qu'il est accessible, puisqu'il est de toute façon accessible en PDF. Ça veut dire qu'il est accessible pour tout le monde. Mm-hmm. Et le titre exact, je ne vous garantis pas, mais c'est quelque chose comme le guide, je ne sais plus quoi, pour les parents d'ados qui pètent les plombs. Et franchement, ça va vous faire du bien parce que c'est plein d'humour. Et ça nous montre que...
Je le veux bien, j'en ai besoin en ce moment.
Voilà, bon, ça c'est pour la partie ado classique, je dirais.
Oui, oui. Hein,
les murs auxquels se confrontent tous les parents d'ados et toutes ces incompréhensions. Et c'est un petit livret qui a été fait par un collectif de parents avec plein de dessins humoristiques et plein de textes qui font vraiment du bien parce que sous couvert d'humour, ça apprend plein de choses aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je vais penser demain à le mettre sur ma page pour que vous ayez accès et tous ceux que ça intéresse aussi. Ça, c'est la première partie. Maintenant, effectivement, chez lui, il y a une deuxième couche, forcément. Il n'y a pas juste la crise d'ado, je deviens pénible.
C'est ce qui est parfois difficile pour moi, de distinguer ce qui fait partie de son passage, j'allais dire...
Obligé, quoi, oui.
Obligé de franchir le cap de l'adolescence, de chercher à se confronter au cadre, à se soustraire à l'autorité, etc. Enfin, qui fait partie du parcours qui le construit aussi, de cette blessure profonde qu'il a et qui le fait souffrir horriblement, quoi.
Alors, je me souviens plus, si on en avait parlé, est-ce qu'il est suivi, ce garçon ?
Oui, il est suivi par la maison des adolescents de l'endroit où nous vivons et par un psychologue. Il est suivi depuis janvier et il avait été suivi lors du décès de mon époux pendant une année et demie environ.
Est-ce que ça lui a fait du bien ? Est-ce qu'il a pu vraiment exprimer les choses et parler ?
Alors, parler, il parle facilement. Ce qu'il y a, c'est que souvent, il dit mentir et s'adapter à ce qu'on attend de lui. Il est dans un souci de ne pas décevoir. C'est ce qui nous a un peu leurré aussi au départ. Cette capacité d'adaptation qui nous paraissait époustouflante, c'était en fait un désir de coller à ce qu'on attendait de lui. Et c'est vrai que quand mon mari était décédé, on avait interrompu le suivi psychologique parce qu'un jour, il m'avait dit « je dis ce qu'on a envie d'entendre que je dise ».
Aïe, 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 oui.
Voilà.
Ça, c'est pas
et là,
bon.
J'ai l'impression, par contre, qu'avec le psychologue de la MDA, il n'arrive pas à faire ça. Il ne peut pas le faire. Bien que je n'ai aucun retour de ce psychologue-là, je vois bien que mon fils quand il en ressort, il n'est pas tout à fait dans le même état que quand il est rentré.
Donc il s'est passé
il y a bien quelque chose qui est travaillé.
C'est plutôt une très bonne nouvelle.
Mmh. Oui.
Et il est tout à fait normal que vous ne lui demandiez pas ce qui s'est passé parce que ça ne se fait pas.
Bien sûr, je ne m'immisce jamais là-dedans.
Ça, je pense que vous l'avez très très bien géré, très bien compris. Mais si vous voyez que ça change, c'est que ça bouge. Donc c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous lui avez déjà dit, dans une conversation calme, dans des moments où ça va bien, que vouloir plaire ou vouloir sauver les apparences, c'est pas une bonne chose ?
Et qu'il
Oui, vous lui avez dit tout ça.
Qu'il soit parfait,
que personne ne demande de lui demander d'être parfait, surtout.
Oui, c'est ça. Que je l'accepte comme il est. Que pour moi, je veux pas qu'il fasse des choses pour me faire plaisir. Je veux qu'il se fasse plaisir à lui. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit le mieux possible dans ses baskets, qu'il ait confiance en moi et qu'il accepte la main que je lui tende quand il en a besoin, qu'il sache que je suis là,
mais
que je ne le lâcherai pas.
Attention, parce que là, c'est ce que vous m'avez dit aussi. Bien sûr, il le sait, mais je pense qu'il ne veut pas non plus vous accabler parce que vous aussi, vous êtes en deuil. C'est compliqué
ça.
De s'accrocher à une maman quand on sait qu'elle est aussi fragile. Et puis, il peut y avoir une pudeur aussi de ce côté-là. Et il est normal que ça ne soit pas à vous de soigner ça chez lui. Ça, c'est logique.
Oui, oui.
C'est logique.
Mais il me l'a déjà dit parfois qu'il sentait que j'étais soit occupée, soit fatiguée, soit... et qu'il n'osait pas dire, voilà, ça, il a verbalisé ça.
C'est une bonne chose. Peut-être pourriez-vous lui dire dans ces cas-là, écoute, parle-moi, et si je ne suis pas en état, je te le dirai. Les jours où je ne peux pas, je te le dis, les jours où je peux, on se parle. Que les choses soient claires, que ce soit clair, tout simplement.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous parlez avec lui beaucoup de son histoire ?
Oui, oui, oui. On lui a fait, quand son père était encore vivant, hein, il nous a demandé à un moment donné d'où est-ce qu'il venait, où est-ce qu'il avait été abandonné. Donc, on lui avait demandé s'il voulait qu'on regarde ce qu'on avait de lui dans notre dossier. Il nous a dit que oui. Bon, on lui a montré les papiers, les petits fascicules qu'on nous avait donnés de l'orphelinat. On lui a expliqué, on lui a lu, on lui a traduit, puisque c'était en anglais, en fait. Mmh. Voilà. Et il a conservé, on a conservé dans une boîte ses affaires.
Il a jamais les eu... affaires. Il a, pardon, il a jamais eu l'envie de retourner dans son pays d'origine avec vous ?
Il en a parlé.
Oui.
Il en a parlé surtout l'année dernière. Et c'est vraiment par-ci qu'il y a des moments où il en parle. Il y a des moments où il se dit qu'il n'est pas encore prêt, mais qu'il le fera.
Oui, je pense que c'est une étape importante. C'est vraiment une façon d'accepter qu'il y a eu ça, et l'avant et l'après.
Oui, et à un moment donné, quand il en parlait de ce retour, c'était surtout pour essayer de trouver quelque chose. Maintenant, quand il en parle, c'est « je veux revoir là où j'étais ».
Peut-être fermer une page. Ouais. Mm. Mais savoir de quelle page il s'agit, en étant sur place, c'est possible aussi, ça. Ouais.
Parce qu'en fait, il a très peu de souvenirs, lui aussi. Il a des images très précises, mais en même temps, quand on discute avec lui, il y a des souvenirs qui s'effacent.
Il
nous a raconté quand il était plus petit.
C'est normal.
Et maintenant, il nous dit, ah, mais je ne me souviens pas, vous l'avoir raconté, ça.
C'est normal. Il était vraiment tout petit. Est-ce que vous êtes en contact avec des familles adoptantes, d'autres familles, pour échanger ?
Alors, on l'a été dans le cadre d'une association.
Oui.
Avec le Covid, chaque année, il y avait un repas, des retrouvailles où toutes les familles se retrouvent, on peut discuter, etc. Avec le Covid, ça n'a pas été possible. Mais on était en contact avec l'organisme, la COFA, qui nous a permis d'adopter notre fils et qui est basé sur Marseille. On retournait les voir parce qu'elles étaient là le jour où on adoptait notre fils. Et notre fils les connaît et on y allait une fois par an pour les rencontrer, pour discuter un peu avec elles. Et à un moment donné, notre fils a exprimé l'idée de ne plus vouloir rencontrer des familles adoptantes. Ça le gênait. Il y avait quelque chose dont il avait besoin de
sortir
de mettre à distance.
D'accord, de ne plus être étiqueté, finalement.
Oui, oui.
D'accord, je peux comprendre ça.
Oui, parce que ça a été douloureux de s'entendre être rejeté verbalement par les enfants à l'école. De ne pas trouver sa place, d'être victime de racisme. Voilà,
J'allais vous dire, ça n'a rien à voir avec l'adoption, c'est du racisme bête et méchant. Quoi.
C'est pas du racisme
parce qu'il a été adopté, c'est juste parce qu'il n'est pas comme les autres.
Oui.
C'est de la pure bêtise humaine, ça. Et ça, j'espère qu'il va réussir à prendre le dessus et à comprendre qu'il est au-dessus de ça, quand même.
Il a franchi un cap cette année par rapport à ça, je pense. Oui, oui. Il y a des choses qu'il arrive à mieux gérer. Il est très, 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 très fort psychologiquement.
J'ai l'impression, oui, que c'est un petit grand bonhomme qui est assez costaud quand même à l'intérieur.
Oui. Ce qu'il y a, c'est que c'est cette émotion de colère qui le traverse et qu'il n'arrive pas à gérer. Quand il est dans cet état de frustration et de colère, il ne peut pas analyser. Il ne peut pas prendre le recul parce qu'il a la tête dans le guidon. Il est un peu enfermé, emprisonné dans cette colère pour l'instant.
Alors, je peux vous donner un petit conseil qui, normalement, est un conseil qu'on donne aux parents d'enfants plus jeunes, mais ça peut fonctionner aussi pour lui. Est-ce que vous connaissez le coussin de la colère ?
Oui.
Vous l'avez fait avec lui ?
On l'a... Oui, on l'a utilisé quand il était plus petit.
Et oui, mais oui. Je me demande si ça pourrait pas lui servir encore maintenant.
Ben maintenant, il n'a pas le coup de la colère, il a le mur de sa chambre, il tape dedans.
Oui,
parfois.
Non, mais ça, c'est une très très mauvaise idée.
Mais ça lui fait mal. Mais ça lui
c'est une mauvaise
mal.
Idée pour lui, pour son bras et pour le mur. Non, non, ce n'est pas une bonne idée. Mais vous pourriez lui en reparler, même en souriant, en lui disant, et si on recommençait ce coussin-là? Je vais peut-être expliquer pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. On demande à l'enfant de choisir déjà, quelle est la couleur pour lui qui représente la colère. Souvent, c'est le rouge qui ressort en premier. Ou le noir, ça dépend. On achète un coussin ou on fabrique un coussin de cette couleur-là et on lui explique qu'à chaque fois qu'il a une crise de colère, plutôt que de faire n'importe quoi, il a le droit de taper dans le coussin pour décharger sa colère. Et moi, je pense que ça marche très bien aussi avec un ado, ça marche aussi avec un adulte.
D'accord, oui, je n'avais pas pensé à recommencer, je l'avoue. Voilà. Moi, on le faisait quand il était beaucoup plus petit.
Mais petit, tu n'as fait pas dans le mur?
Non.
Eh oui, et maintenant ça serait bien qu'il dévisse. Elle a besoin de sortir cette colère. Alors qu'elle sorte par des mots quand il est en thérapie, c'est très bien. Il faut qu'elle sorte physiquement. Et si vous faites des crises de colère comme ça, c'est un bon moyen de l'aider à exprimer ça. En disant voilà, t'as le droit de taper, mais pas n'importe où, pas sur n'importe quoi.
Il y a quelque chose qui est là. Dans l'entourage qu'on a, on a la chance d'avoir. Il a la chance d'avoir un super parrain et qui lui a proposé justement. Un sac de boxe, de faire des arts martiaux avec lui.
Oui, j'y pensais aussi.
Voilà.
Ouais.
Et mon fils a toujours opposé un non. Il a peur de cette violence intérieure. Et il a peur de la faire sortir.
Il faut lui expliquer que c'est justement une manière de la canaliser, pas de la faire sortir n'importe comment. Les arts martiaux sont excellents pour ça. Il ne s'agit pas de faire sortir sa violence, au contraire, il s'agit d'apprendre à s'en servir.
Donc voilà, on en est là et c'est vrai que là pour cet été, on a repensé à lui proposer justement de faire des mini stages, où il peut essayer d'extérioriser ça tout en étant dans un cadre qui le lui permette et qui en plus avec cette année particulière, il a pas fait de sport.
Et oui, c'est ce que j'allais vous dire. Forcément, ça n'a rien arrangé ça. Mais est-ce qu'il rejette tous les sports ou est-ce qu'il rejette les arts martiaux?
Il a tendance à rejeter les arts martiaux particulièrement. Voilà. Parce que on lui a proposé d'avoir un sac de boxe à la maison, on lui a installé on lui a dit écoute,
punching
quand tu
ball,
seras en colère,
un petit punching ball.
Taper,
oui, oui, aussi.
Voilà, tape dedans et il veut pas le faire, il l'a jamais fait.
C'est curieux ça. Il a peur à mon avis, il a peur de ne pas avoir de limites.
Mais c'est ça. Il a peur d'ouvrir la vanne parce qu'il se demande s'il va l'arrêter. Ou si elle ne va pas l'emporter trop loin. Je pense, d'après ce qu'il nous explique.
Ce qui est compliqué là, c'est qu'on ne sait pas sur quoi il travaille avec son thérapeute. Donc c'est difficile de savoir est-ce qu'il travaille là-dessus, est-ce que son thérapeute l'aide à évacuer cette colère-là d'une autre manière. Mais ça, on n'a pas l'info. Donc. On ne peut que supposer. Oui. Ça fait combien de temps là qu'il le voit, ce thérapeute, où vous avez l'impression que les choses bougent un petit peu quand même?
Ça fait 6 mois qu'il le voit. C'est frais et sur certaines choses, je sens qu'il y a des petites améliorations. Sur d'autres, pas vraiment. Pas vraiment. Mais comme je n'ai pas de retour, je n'ai pas d'infos, même minimes, c'est difficile de savoir parce que la colère, elle est l'expression de différentes choses chez lui. Le thérapeute lui propose des rendez-vous espacés en fonction aussi de l'état dans lequel il est avec lui. Parce que des fois, c'est des rendez-vous chaque semaine et puis des fois, c'est des rendez-vous tous les 15 jours. Je sais maintenant que quand c'est toutes les semaines, c'est qu'il y a un travail nécessaire parce qu'il a senti qu'il était mal.
Ce qui est plutôt bien, ça me rassure de savoir qu'il est suivi de près comme ça, c'est bien.
Et là, on vient de lui proposer en parallèle de l'art-thérapie.
Ah, si ça peut le tenter, pourquoi pas.
J'étais en de l'art-thérapie, mais en individuel.
Oui.
Et moi, j'avais essayé de lui proposer de rencontrer, en plus de ça, quelqu'un qui travaillerait sur le comportement ou en EMDR. Moi, j'essaye de fouiller toutes les possibilités qui lui permettraient d'exprimer ce qui verrouille au niveau de la colère là.
Est-ce que l'art thérapie lui donne envie? Est-ce que ça lui parle?
Oui, ça il en a très envie. Il commence la semaine prochaine,
ça,
il commence mardi.
Ça c'est très bien.
Il aime beaucoup dessiner.
Ah ben voilà, il y a un très bon moyen d'exprimer les choses aussi, ça, le dessin.
Il aime beaucoup dessiner.
Est-ce qu'il aime les animaux? Ou pas spécialement?
Bah, il aime bien, mais à un moment donné, je lui ai demandé s'il voulait avoir un chien ou un chat à la maison. Donc, on a eu un chat, puis le chat est décédé. Donc, après, on n'en a pas repris. Et bon, je lui ai demandé plusieurs fois.
C'est pas ça que je pensais. Hein. Non.
Ah,
je pensais, par exemple, à l'équithérapie.
Il peut pas. Il est allergique aux chevaux.
Ah, zut. Ok, on efface tout.
Non, il est très très allergique aux chevaux et il ne peut pas s'approcher des équidés.
D'accord, parce que c'est aussi une très très bonne thérapie pour des enfants qui ont des choses à évacuer. Parce qu'avec l'animal, tout change, quoi. Mais là, effectivement, on oublie ce que j'ai dit, ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est une excellente voie, ça, qui soit ouvert à l'art thérapie, vraiment.
Mais c'est quelqu'un qui est... Mon fils est très, très sensible aux autres, très empathique. Moi, je m'étais demandé, je ne sais pas, je vous demande aussi votre avis, éventuellement de lui proposer d'adhérer à une association en tant que bénévole où il se sentira utile aux autres, où qui pourra le restaurer un peu son estime de soi, parce que son estime de soi, elle est très, très basse. Très, très, très basse.
Ben forcément,
très rabotée.
Quand on vit au monde avec l'idée que celle qui a été ma mère n'a pas voulu de moi, c'est que j'ai pas de valeur, forcément. C'est compliqué,
mais
ça aussi.
Dans ses crises de colère, il a des mots très durs envers lui. Très dur.
Parce que c'est aussi un grand classique, ça. L'enfant pense que c'est parce qu'il vaut rien qu'il a été abandonné. Très inconsciemment, bien sûr. Mais pour répondre à votre question, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu solitaire. Je sais pas. Demandez-lui pour une association s'il a envie d'être bénévole et d'être dans une équipe, dans un groupe. J'ai pas l'impression pour l'instant qu'il ait très envie de s'intégrer dans des grandes équipes comme ça.
D'accord.
Mais posez-lui la question, il vous le dira sincèrement. L'idée me plaît bien, mais peut-être pas tout de suite. Je pense qu'il a besoin d'abord de se calmer un peu, d'apaiser certaines choses avant d'aller s'occuper des autres. C'est compliqué de donner ce qu'on n'a pas, vous savez.
Eh oui.
Donc il vaut mieux pour l'instant qu'il se répare lui avant d'aller essayer de réparer les autres.
Eh oui, mais c'est vrai que c'est ce que moi souvent je lui dis quand il me parle de ses amis, du fait qu'il est très... très en empathie avec eux, qu'il essaie de les aider. Je lui dis souvent, mais aide-toi toi-même, et après tu pourras encore mieux les aider. C'est pour ça que j'avais pensé à ça, mais effectivement...
Peut-être pas tout de suite, en tout cas.
La première personne qui doit aider, c'est lui, oui.
Mais je pense vraiment que c'est un très très bon chemin, l'art-thérapie, surtout s'il est bon en dessin, s'il aime ça, et s'il a envie. Ça, c'est formidable, parce que c'est très compliqué d'amener... Voilà, ça, c'est très, très bien. C'est très dur d'amener un ado à faire une thérapie quand il ne le veut pas. Donc, quand il le veut, c'est une très bonne chose. Vous savez quoi? Le temps passe tellement vite avec vous, Olga, que c'est déjà la fin de l'émission à nouveau.
Pardon.
Allez scanner sur ma page Facebook demain, je mettrai pour vous et pour tous les autres, bien sûr, ce petit manuel qui, au moins, vous fera sourire, je l'espère.
Oui, bien sûr.
Et puis, n'hésitez pas à me dire dans quelques temps comment ça a évolué et si vraiment cette art-thérapie lui a fait du bien, parce que je suis persuadée que ça va changer les choses aussi. Et reparlez-lui du coussin de la colère, on ne sait jamais.
Ben, très bien, je vais suivre vos conseils. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre émission qui est plus qu'utile.
Merci à vous, Olga, de votre confiance. Je vous embrasse très fort.
Merci, au revoir.
À bientôt. Et notre libre antenne se termine. Il est l'heure de refermer la page de cette émission. Merci à tous d'avoir été là malgré nos horaires décalés. Horaires décalés encore demain puisqu'on se retrouvera à partir de 23h30. Je vous quitte avec la phrase du jour. Ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui est le plus important. C'est ce que nous en faisons. Passez une très très bonne nuit et à demain soir. Et n'oubliez pas demain soir 23h30 mais dimanche soir 22h30. J'espère que c'est bien noté. Passez une bonne nuit.